Rec FM, il est 19h. Il y a quelques jours, je recevais plusieurs intervenants afin de revenir sur les rencontres des acteurs de la précarité énergétique qui avaient lieu à Rouy quelques jours avant. L'occasion de revenir sur cette précarité et des solutions pour la limiter au maximum. Écoutez.
Bonjour Jean-Paul Fallet.
Bonjour, aux auditeurs de Bac FM.
Vous êtes conseiller départemental de la Nièvre, délégué à l'habitat et à l'économie sociale et solidaire. Vous êtes en présence également de Pascal Renard, élu au Sienne et vice-président. Bonjour.
Bonjour.
Et Stéphane Le Breton, chargé de projet Habitat au conseil départemental.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous. Merci déjà de répondre à notre invitation sur Bac FM. Alors, on va revenir évidemment sur ces rencontres départementales qui ont eu lieu à Rouy en décembre dernier. Mais juste avant, pour pouvoir aborder le sujet plus simplement et plus compréhensible aussi envers nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le SIEN ? Alors, le SIEN, S-I-3-E-N.
Voilà, le SIEN, c'est le syndicat intercommunal d'énergie, d'équipement et d'environnement de la Nièvre. Il regroupe 280 communes nivernaises sur les 320 et quelques du département. Et bah, comme son intitulé l'indique, tout ce qui concerne l'énergie est pris en compte par le syndicat.
Alors nous avons deux représentants ici du conseil départemental. Vous êtes élu au Sienne. Qu'est-ce que ça veut dire être élu au Sienne et être vice-président? En quoi ça engage?
Alors être élu au Sienne, c'est une... toutes les communes de la Nièvre ont donné par délégation au syndicat un certain nombre de compétences. En l'occurrence, tout ce qui est éclairage public, électricité, pour certaines, les déchets ménagers, qui est un certain nombre de communes et de Comcom ont donné ses compétences aux siennes.
Oui, ça englobe plusieurs aspects de la société qui concernent largement l'environnement, en fait.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Hein. C'est un syndicat qui a été créé en 1946 et dont l'objectif, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les communes sont propriétaires de leur réseau électrique. C'est-à-dire, et par délégation, on a confié la gestion aux siennes.
Alors, vous êtes évidemment complémentaire avec le conseil départemental sur tous les aspects, j'imagine, qui sont mis en avant au Sienne. Comment vous travaillez justement ensemble, le Sienne et le conseil départemental ?
Alors, le Sienne, en plus de cette vocation, a pris aussi une dimension, je dirais, sociale, qui est de... ça remonte à 2015, je crois. Avec le conseil départemental, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de notre population avait besoin d'un soutien. Et donc, il y a eu trois fonds qui ont été créés. Le fonds social logement, le FNAM, le fonds nivernais d'amélioration et à la maîtrise de l'énergie.
Justement, on reviendra dessus tout à l'heure sur ce que ça englobe et sur ce que ça veut dire concrètement.
Et donc, en plus, sur un certain nombre de fonds, il y a d'autres partenaires qui sont les Comcom. Un grand nombre nous rejoignent depuis, je dirais, 2 ans, Jean-Paul.
Oui, oui. C'est progressivement, on va arriver presque à avoir toutes les communautés de communes au sein du dispositif FNAM.
Le 2 décembre dernier, à Rouy, avaient lieu des rencontres départementales des acteurs contre la précarité énergétique et en lien évidemment avec la crise énergétique que l'on traverse et qui augmente de jour en jour. Précarité énergétique, ça veut dire quoi ?
Il y a une définition nationale qui est admise à peu près par tous, même si on ne la trouve pas forcément dans les dictionnaires. On estime qu'une personne, qu'un ménage est en précarité énergétique lorsqu'il dépense plus de 10% de ses ressources à l'énergie en règle générale, c'est-à-dire le chauffage dans le logement, les appareils électriques dans le logement. Et tout ce qui fonctionne à l'électricité finalement dans le logement. Donc chauffage, c'est pas forcément l'électricité, mais plus l'électricité. Donc on fait le total, et si ça dépasse 10% des ressources d'un ménage, on estime qu'il est en précarité énergétique.
Dans la Nièvre, 25% des ménages sont touchés par la précarité énergétique. C'est plus que le niveau national qui est à 13,9% des ménages qui sont touchés. À quoi c'est dû, ces chiffres-là ?
Alors, on a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. D'une part, on a des personnes qui ont des ressources assez faibles, plus faibles que la moyenne nationale. Donc forcément, ça rentre en ligne de compte. Et puis ensuite, on a des logements qui, dans leur moyenne aussi, sont plus énergivores. C'est-à-dire qu'on a des logements plus ancien que la moyenne nationale, moins de logements neufs, moins de logements récents, et ces logements plus anciens, du coup, ont des dépenses énergétiques plus importantes.
En quoi les pathologies aussi chroniques qui arrivent été comme hiver rentrent en jeu? Parce que j'ai vu sur le site du CIEN qu'il y avait aussi cet aspect-là qui rentrait en jeu dans cette précarité énergétique.
Oui, lorsqu'un ménage est en précarité énergétique, non seulement il a froid, etc., mais ceci entraîne aussi un certain nombre de maladies récurrentes parce que justement il n'arrive pas à chauffer ou à vivre confortablement dans son bâti.
C'est la précarité énergétique qui amène cette situation-là.
Oui. Ouais.
Justement, donc, c'était toutes les conversations de ces rencontres départementales des acteurs contre la précarité. On va revenir sur l'objectif et sur le bilan de ces rencontres, mais avant tout, qui était présent à ces rencontres? Qui étaient ces fameux acteurs majeurs de la lutte?
Il y avait quand même pas mal de monde qui sont à la fois des acteurs qui accompagnent toutes ces personnes qui sont en précarité. Les acteurs, je pense notamment aux travailleurs sociaux, et puis des organismes qui sont intégrés. Il y avait Enedis, par exemple. Enfin, on va dire l'ensemble des acteurs qui touchaient à un moment ou à un autre par cette problématique. Et le but de cette rencontre, c'était justement de pouvoir échanger, de pouvoir faire une forme d'état des lieux, mais en mouvement, en étant dans une démarche participative. Et on était, les personnes ont pu s'exprimer pour faire part. Il y avait tout un programme d'intervention et qui permettait après aux Nivernais, puisque c'était des Nivernais qui se retrouvaient, de pouvoir échanger et identifier les, à la fois des problématiques, mais aussi parce qu'il y a un gros travail quand même qui se fait au niveau des partenaires. Bon, bah là aujourd'hui, Sienne et Conseil départemental qui s'est attaqué à ce fléau de la précarité énergétique, et l'ensemble des acteurs qui étaient là ont pu démontrer aussi qu'on pouvait être acteur justement pour combattre ce phénomène.
Alors comment on peut être acteur justement?
Ben on est acteur à travers les différents dispositifs. Pascal Renard en a parlé tout à l'heure sur notamment le fonds de solidarité. Logement, le fonds, le FNAM, on en parlera tout à l'heure. Oui. C'est à travers des dispositifs de ce type qu'on s'est attaqué à ces problèmes. Alors on est, comment dire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 25% de foyers, c'est pas anodin. Il n'empêche qu'on reste pas les mains dans les poches. Et ce qui était intéressant sur cette journée, c'est qu'on a démontré, on a pu échanger sur le fait qu'on était acteur de cette problématique.
Et dans les objectifs du coup de ces rencontres, il y avait des conversations, des échanges. Il y avait aussi l'éclairage sur le marché de l'énergie et les offres commerciales. Bien choisir son fournisseur, ça veut dire ça en fait?
En ce qui concerne les offres d'électricité, moi je mets en garde tous les particuliers qui ont abandonné le tarif réglementé d'EDF. Avec des offres alléchantes, il y a de ça 3 ans à peu près. Et où
il y a un vrai marché qui s'est mis en place d'ailleurs autour de l'énergie.
Tout à fait, mais un marché qui n'est pas dans le bon sens du terme. Les particuliers qui ont quitté le tarif réglementé d'EDF se sont vus quelquefois avec des factures énormes, tant sur le plan électrique que sur le plan de gaz, voire avec des fournisseurs qui ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain.
Oui.
Il y a 2 ans, c'est la Grande-Bretagne qui était touchée par rapport à ce phénomène-là, et avec un appauvrissement de la population qui ne parvenait plus à payer ses factures d'énergie, gaz ou électricité, et qui du jour au lendemain ne se retrouvait sans rien du tout. En France, la problématique est intervenue aussi, et lorsque cela arrive, les gens peuvent retourner vers le distributeur historique EDF, mais pas aux mêmes conditions que le tarif réglementé.
Quelle est la solution justement pour combattre ce fléau du marché de l'énergie en fait? Et comment on aide les particuliers à bien choisir leur fournisseur? Parce que la tendance est d'aller aussi des fois au moins cher, malheureusement, c'est ça. Comment on leur explique, comment on les informe sur ce sujet-là?
Alors comment on les informe? J'ai envie de dire, à partir du moment où un particulier signe un contrat, il doit lire les clauses de son contrat. Bien souvent, c'est le genre de choses qu'on ne fait pas, et c'est lorsqu'arrive un gros problème
qu'on se dit qu'on aurait dû les lire.
Eh ben oui, Hein. Et donc, changer de fournisseur d'énergie, quel que soit le type d'énergie, moi je mets en garde les gens de bien lire les conditions, de ne pas souscrire, entre guillemets, sous la pression, et en tout cas de refuser tout démarchage par téléphone. Pour ceci, on a l'Agence locale de l'énergie et du climat qui est à Nevers, rue Bérégovoy. Et c'est déjà d'aller se renseigner auprès de cette agence.
Quel bilan est tiré de ces rencontres ?
Alors,
auprès des particuliers comme auprès des partenaires, des professionnels comme vous, justement.
Tout à fait. On a un premier élément qui est de devoir détecter ces personnes en situation de précarité énergétique, car certaines font des démarches, et donc on arrive effectivement à les identifier et à les accompagner, mais d'autres n'osent pas ou ne font pas ces démarches. Et les chiffres des 25%, c'est statistique. Mais on sait qu'il y a un écart entre celles qui sont vraiment connues et celles qui ne le sont pas. Donc l'un des premiers éléments de bilan concerne la détection de ces personnes qui sont en précarité énergétique, car toutes ne font pas la démarche de se signaler, d'aller prendre des renseignements et de demander entre guillemets de l'aide. Ça c'est un premier élément, d'essayer d'activer les réseaux pour que des personnes qui constatent ce genre de situation puissent faire remonter, en parler déjà aux personnes et essayer de les convaincre d'aller s'identifier pour qu'on puisse les aider.
Et oui, les aider parce que l'énergie depuis 2018 et encore plus maintenant devient la première dépense dans un ménage. C'était le cas déjà en 2018, c'est de plus en plus le cas dans plus en plus de ménages maintenant. Comment on fait pour éviter ça justement ?
Alors c'est déjà un constat à faire, et je vois pour le département, on a pu mesurer combien le logement était un élément important chez les ménages. On a eu l'opération Imagine la Nièvre où environ 2000 personnes, 2000 Nivernais se sont manifestées et ont débattu, réfléchi, et le logement arrive dans les priorités des priorités de... Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la mise en place de dispositifs.
On rappelle qu'Imagine la Nièvre, je vous coupe, mais on rappelle qu'Imagine la Nièvre, l'objectif était de donner la parole au maximum de personnes. C'était par groupe de 200 personnes à peu près, sur des sujets variés qu'ils choisissaient et où ils rencontraient justement des élus pour parler justement de ces sujets-là et trouver des réponses à leurs questions.
Et puis aussi de proposer, puisqu'on a plus de 400, ça doit être 440 propositions sur lesquelles actuellement on travaille pour pouvoir ne pas rester que dans le dialogue, mais aussi être dans la concrétisation, d'action. Et je disais que les dispositifs qui sont mis en place, et puis je pense que la Nièvre n'est pas en retard par rapport à ça, notamment sur le fonds d'aide, le FNAM, le fonds d'aide à la maîtrise d'énergie, puisqu'il a presque 10 ans maintenant qu'il a été créé, qu'il développe un partenariat, on l'évoquait tout à l'heure, avec le CIEN, mais aussi toutes les intercommunalités qui petit à petit viennent renforcer le dispositif. Ce dispositif qui est à la fois un dispositif de lutte contre la précarité, mais c'est aussi un dispositif qui permet d'accompagner ce que disait Stéphane Le Breton sur le comment on va chercher les personnes. Ce dispositif, grâce à l'ensemble des partenaires, on arrive à combattre cette précarité. Les moyens sont mis, on espère toujours en mettre un peu plus, mais en tout cas, on a un certain nombre de résultats qui montrent, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne reste pas inactif par rapport à cette problématique.
Et ce fonds d'aide-là, précisément, il apporte quoi au particulier ?
Mais il apporte sur les travaux notamment de rénovation énergétique.
Tout ce qui est isolement, etc., par exemple.
Tout à fait, l'isolation, mais aussi les modes de chauffage. Adapté à la spécificité justement du logement. Donc il y a des études qui sont faites. Il y a une commission qui se réunit en gros tous les mois et qui valide la faisabilité de cette opération, avec une participation financière non négligeable de l'ensemble des partenaires. L'objectif étant, et pour nous, conseil départemental, par rapport à une des compétences de solidarité, c'est de minimiser au maximum le reste à charge des personnes qui s'engagent dans cette voie-là.
Alors justement, comment participe également le CIEN à éviter, à ralentir cette précarité énergétique ? On parle de fonds spécifiques justement, je crois que le CIEN participe à de nombreux fonds.
On participe aux trois fonds qu'on a cités au tout début. Et effectivement, c'est une coprésidence entre le conseil départemental et le sien. Je tiens aussi à souligner que les personnes qui viennent à l'Agence locale d'énergie et du climat ou qui déposent un dossier, les premières personnes qui peuvent être sensibilisées à la précarité énergétique, ce sont les intervenants qui viennent dans les familles. Je pense aux assistantes sociales qui font un travail. Alors, c'est pas non plus leur mission première, mais je pense aussi aux collectivités locales par le biais de leur CCAS qui peuvent donner des fonds d'urgence pour pallier à des factures non payées ou des arrêts d'électricité. C'est aussi un relais. Et les personnes des CCAS doivent penser ALEC et FNAM dans leur réflexion. Bien souvent, c'est par ce biais-là que nous sommes au courant des dossiers et des situations sur lesquelles nous pouvons répondre.
Oui, j'insiste sur ce point-là, sur le captage un peu des logements qui se révèlent en précarité. On a un maillage, alors il y a tous les acteurs, tous les CCAS, les acteurs locaux, dans les communautés de communes.
Quand vous parlez des CCAS, ça veut dire quoi exactement ?
Centre de communal d'action sociale, qui est spécifique à chaque commune. Les agents de développement pour qui le logement aujourd'hui et l'habitat est souvent une ligne, une compétence de la Comcom. Au niveau du département, on a quand même 11 sites d'action médico-sociale répartis sur l'ensemble du département. Et c'est des acteurs qui sont en proximité, qui vont chez les gens et qui peuvent dévoiler, repérer les difficultés rencontrées. Parce que comme l'a dit Stéphane tout à l'heure, les gens, des fois, ils n'osent pas. On voit ça notamment sur les logements indignes. On sait qu'il y a beaucoup de logements indignes, mais on n'arrive pas forcément à capter. Donc le fait des travailleurs sociaux, comme l'a évoqué Pascal Renard, est un élément clé indispensable pour la mise en place des réponses et de ce dispositif.
Et qui exprime aussi la réalité de terrain aussi qu'ils voient tous les jours.
Alors si vous êtes en commune rurale, il n'y a pas forcément une assistante sociale disponible 24-24, mais vous avez aussi le rôle des élus qui eux bien souvent sont au courant des situations et ne pensent pas forcément à faire appel au service des différents partenaires. Mais un maire, un adjoint ou un simple conseiller municipal qui est au courant d'une situation difficile, je pense, moi, dans le milieu rural, où des personnes d'un certain âge, pour pas dire d'un âge certain, se privent de chauffage ou d'électricité, ça joue sur leur santé.
Il faut savoir qu'il y a des Français à l'heure actuelle qui doivent faire le choix entre se chauffer ou se nourrir. C'est une réalité.
Tout à fait. Oui, c'est une réalité. C'est pas que dans les informations. La réalité de terrain, elle est celle-là.
Et il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est la plus mise en avant ces derniers temps, c'est le chèque énergie, quand même. Mais des fois, ça ne suffit pas. Et il y a le fonds d'avance Procivis que j'ai trouvé sur le site du CIEN. Ça veut dire quoi ?
Alors, le fonds d'avance Procivis, c'est Stéphane peut en parler puisqu'il a fait une réunion dernièrement avec eux. C'est un organisme.
Un organisme bancaire à vocation sociale, donc avec lequel on a un partenariat, les acteurs dont on a déjà parlé au cours de cette intervention, on se retrouve tous aussi en partenariat avec Procivis, et c'est un système d'avance de subvention. Le dispositif a été mis en place suite au constat que certaines personnes ont un projet de travaux qui est financé, parce que les financements, on l'a dit, existent et sont assez intéressants, mais parfois ne peuvent pas payer par eux-mêmes les acomptes que demandent les entreprises. Et du coup, ils ont un manque de trésorerie. Les subventions arrivent toujours après travaux.
Après les travaux.
Après travaux. Donc ce fonds permet de financer les entreprises quand les travaux sont faits, et la subvention, au lieu de venir dans le budget du ménage, elle est reversée à Procivis, reversée dans le fonds, qui à ce moment-là peut être mobilisé pour un autre dossier.
Ce qui est une garantie aussi pour les entreprises,
oui.
Le fait d'avoir les financements assez rapidement, parce que tout ce qu'on est en train de dire a aussi le fait de pouvoir aider ces ménages en difficulté, cette précarité. Tous les dispositifs mis en place, et on n'a pas parlé de l'ANA, mais qui, dans le cadre du programme d'intérêt général, est présent. Tous ces dispositifs ont un rôle aussi économique sur notre territoire, parce que la plupart des travaux qu'on réalise dans les différents dispositifs sont réalisées par des entreprises à presque 90%.
De l'artisanat local.
De l'artisanat local. Donc il y a aussi une dynamique qui n'est pas inintéressante et on voudrait la développer, parce que si on la développe, ça veut dire qu'on aura de moins en moins de logements précarité énergétique.
Et c'est ce qui, en plus de ça, amène une certaine dynamique sur le territoire. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se rendent compte au fur et à mesure de notre conversation que la précarité énergétique, ils la subissent peut-être, ou même qu'ils le savent déjà depuis un moment, mais qu'ils ne savent pas vers qui se tourner, qu'est-ce que vous pourriez leur adresser comme message ?
Le premier interlocuteur pour moi, c'est le CCAS ou l'assistante sociale de secteur. De façon, j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte à être en précarité énergétique. Nous, au vu des dossiers qu'on voit, ça touche à la fois l'étudiant qui, alors peut-être par rapport à un problème de gestion, ne sait pas le gérer, ou c'est le début de sa vie, je dirais, d'adulte, va se trouver confronté à des relances ou à des frais en janvier, février, dont il ne pourra pas faire face, jusqu'à la personne propriétaire de son logement de 75 ans qui, j'ai envie de dire, se prive au niveau énergétique. Donc, pour moi, les premiers interlocuteurs, c'est l'assistante sociale de secteur, c'est le CCAS de sa commune, et puis autrement, si, c'est d'aller à l'ALEC et de poser auprès des interlocuteurs qui sont présents la problématique. Je crois qu'effectivement, ça peut toucher n'importe qui.
Il n'y a pas d'âge ni de situation à être en précarité énergétique. Il ne faut pas en avoir honte.
Tout à fait.
Et oser en parler.
Tout à fait.
Est-ce que le conseil départemental, les représentants du conseil départemental voudraient adresser un mot également aux auditeurs dans cette situation ou qui n'osent pas justement en parler ?
Ben, je crois que Pascal Renard a dit l'essentiel. Je crois que tous les acteurs de proximité qu'on peut repérer, de l'élu, le maire, puisque dans les petites communes, les CCAS sont des fois rattachés directement à la commune, mais les maires, tous les acteurs, je parlais tout à l'heure des agents de développement, des collectivités qui ont fait, je le répète, du logement une priorité. On les retrouve, nous d'ailleurs, dans la commission du FNAM, ces agents de développement sont autour de la table pour travailler autour des dossiers. Et puis, les services vont... Pour ce qui concerne le département, ce que je disais tout à l'heure, les services d'action médico-sociale qui sont en proximité, il y en a 11 sur l'ensemble du territoire, avec conseillers en éducation sociale et familiale, avec assistantes sociales. Donc, c'est des acteurs sur lesquels il faut compter, et on peut compter sur eux pour faire remonter ces opérations. Mais n'hésitez pas à parler. Nous, de notre côté, on essaye de mettre en place de la complémentarité. Les dispositifs qu'on évoquait tout à l'heure, ils ne s'empilent pas. Ils sont complémentaires les uns par rapport aux autres pour répondre à ces difficultés autour du logement et de l'habitat.
Et ne pas hésiter à se tourner donc vers ces dispositifs et vers les personnes compétentes d'entendre et de se diriger après vers ces dispositifs-là, justement. Merci, messieurs, d'être venus nous répondre à mes questions et d'avoir répondu à notre invitation sur BAC FM. Merci.
Merci BAC FM. Merci de votre invitation.
Voilà, tout de suite, c'est le retour du son pop rock sur le 106.1. Je vous souhaite une belle soirée et je vous retrouve demain à 10h30 pour Action. Bye.